Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous vous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
On va continuer et clôturer sur garder le bon dépôt.
1 Timothée 6 chapitre 20.
On va relire donc ces versets. C'était nos versets de référence. 1 Timothée 6 verset 20. Il est dit au Timothée, garde le bon dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science. Quelques-uns pour en avoir fait profession ont en ce qui concerne la foi manquer le but ou fait naufrage.
Go ewe Timoteyo wame uzigama icho wabikijwe utere ibitugu ibizira by'amagambo ahumanya n'ukugwana kw'ivyitwa ubwenge atari bwo ubwo bamwe bivuga ko babufise bakazimira bagatukwizera.
Il y a des gens malheureusement qui commencent dans la foi et qui terminent en naufrage.
Birababaje hari abantu batangurira mu kwizera hama bakatwagwa bakaja mu bitari
byo. Et ma prière c'est que personne ici ne s'égare.
Si
c'est pourquoi tu dois veiller sur toi-même et tu dois savoir qu'il y a un dépôt que tu dois garder. Nous avons vu que garder le bon dépôt, ni plus ni moins, ça voulait dire ce que Paul a exprimé dans Romains 12, verset
11.
C'est ni plus ni moins, ayez du zèle, nom de la paresse, soyez fervent d'esprit.
C'est-à-dire,
soyez bouillant pour le Seigneur. Soyez vraiment rempli de zèle et de l'esprit de Dieu pour marcher avec Dieu. Ce qui ne veut pas dire que de temps en temps vous ne chuterez pas quelque part. Ce qui ne veut pas dire que vous ne ferez pas vos erreurs.
Vous
voyez, Pierre était quelqu'un de très zélé. Il a vraiment gardé le bon dépôt, Pierre, jusqu'au bout. Mais quand on lit les évangiles, on voit un certain nombre d'erreurs de Pierre qui ne sont pas des moindres. Mais il aimait le Seigneur et il était zélé pour le Seigneur, il a gardé le bon dépôt. Il aurait pu se décourager quand il a pris son bain froid là, dont nous venons de parler là, dans Matthieu 14 quand il est tombé dans l'eau. Il aurait pu jamais se pardonner alors qu'il a renié Jésus. Il aurait pu s'écarter de Jésus quand Jésus l'a repris sévèrement. Alors que le Seigneur disait à ses disciples qu'il va mourir, il va souffrir de la part des Juifs, qu'il va mourir et qu'il ressuscitera. Et Pierre s'est opposé à Jésus. Et Jésus l'a repoussé vraiment durement. Et Pierre aurait pu dire, ah si c'est ça Seigneur, moi je m'écarte de toi, c'est fini. Donc vous voyez, du zèle et être fervent d'esprit
ne veut
pas dire que vous n'allez pas faire d'erreur. Par contre, vous allez vous casser la tête plusieurs fois, c'est sûr. Mais au moins, vous allez prendre des bonnes leçons. Parce que c'est en apprenant à chuter, savoir qu'on peut chuter aussi, qu'on prend des bonnes leçons. Donc Pierre est tout à fait le type de personne qui a gardé le bon dépôt jusqu'au bout. Il a vraiment été jusqu'au bout avec son Seigneur. Et Pierre a terminé sa vie en étant crucifié à l'envers. Et il a été martyrisé pour sa foi. Parce que c'était un homme de conviction. Un homme qui avait ses problèmes de caractère qu'il a dû résoudre au fil des années. things.
Mais
c'était un homme de conviction.
Qui a
vraiment marché avec le Seigneur d'une manière digne. Donc, nous avons vu que être fervent d'esprit, c'est quelque chose qui est de notre ressort. Et nous allons rencontrer un certain nombre de tests dans notre foi.
C'est-à-dire
des choses qui vont essayer de vous décourager, de vous refroidir. Hein? Par exemple, souvent, quand des gens font des associations, vous savez, les associations, les organisations, par exemple, ils sont là, ils disent, oh, c'est vrai, il y a tel problème dans le pays, on va faire ça, on va se mettre ensemble, ah, toi, tu as la même idée, ah, je connais quelqu'un qui va nous aider, etc.
Les gens sont zélés.
Et puis, au bout de quelques mois, quand les premiers obstacles sont là, ils commencent à se refroidir. Et des années plus tard, des fois, l'association n'existe même plus. Pourquoi ? Parce que c'est une flamme, hop, qui est là. Avec des bonnes intentions, avec des personnes qui pourraient faire des choses, mais la plupart du temps, les obstacles vont les décourager et au bout d'un moment, ils vont complètement se refroidir. Ou se séparer, ou faire des histoires, etc. Et puis vous interrogez quelqu'un qui passait tout son temps à s'occuper de cette cause.
Et il dira,
non, maintenant, tu sais, j'ai plus vraiment le temps de le faire.
Et
en fait, il s'est complètement refroidi par rapport à la cause qu'il défendait au départ. Pourquoi ? Parce que ça n'a pas été alimenté. Tout simplement. Et avec le Seigneur, notre relation doit être alimentée régulièrement. Et il y a des choses qui mettront des gros seaux d'eau sur votre feu. Vous savez, s'il y a un petit feu que vous jetez un seau d'eau de 20 litres, il va s'éteindre. Maintenant, si vous avez un immense feu, eh bien, un seul seau d'eau, ça ne fera pas grand-chose. Il faudra des tonnes et des tonnes et des tonnes d'eau avant vraiment d'éteindre ce feu. C'est pourquoi le feu qui existe en toi, tu dois l'entretenir ou peut-être même le ranimer. Et tu dois faire qu'il brûle, qu'il soit alimenté, que ce soit un très grand feu pour le Seigneur. Le zèle et le feu, c'est souvent des analogies dans la parole de Dieu. Quand
tu es
rempli du feu du Saint-Esprit, tu es très zélé pour le Seigneur. Quand tu as le feu de l'amour pour Dieu, tu vas faire tout ce qu'il va te demander. Mais une des choses les plus difficiles, c'est d'entretenir, d'alimenter et de faire grandir ce feu. Parce qu'il va y avoir un certain nombre de choses qui vont s'y opposer, qui vont essayer d'éteindre ton feu. Il y a plein de choses que tu dois faire pour l'alimenter, que si tu ne fais pas, au bout d'un moment, ton feu va s'éteindre. Et on verra sur la longévité de ta vie chrétienne qui tu es vraiment. Les merveilleux départs dans le Seigneur, c'est très bien. Et c'est une très bonne chose. Mais il va falloir grandir. Trop de gens débarquent très bien. Mais rapidement, ils s'arrêtent sur la course. Nous avons vu qu'il y a des déceptions. Parfois, nous sommes déçus. Parce qu'on ne comprend rien à la vie spirituelle et on met des attentes sur Dieu qui ne sont pas du tout scripturaires. On fait des prières qui n'ont rien à voir avec ce que l'Écriture nous montre. C'est normal, on n'est pas encore éduqué dans la parole. Donc d'un seul coup, on est déçu parce que Dieu ne répond pas à notre prière et vraiment là, on se dit, ah, ça ne va pas. Peut-être que tu as mis une attente trop haute aussi sur les hommes. Et des gens te déçoivent. Mais La parole de Dieu nous dit de ne rien nous devoir les uns aux autres. Apprends à investir chez les autres, mais n'attends rien en retour directement. Comme ça, tu ne seras jamais déçu quand il te donne. Et tu diras simplement, ben merci. Merci Seigneur. Et tu continues ton chemin. Quand les gens mettent des attentes trop hautes sur des chrétiens ou sur des serviteurs de Dieu, ils se trompent. L'homme est l'homme. Avec ses qualités, avec ses défauts. Donc apprends simplement à donner ce que tu dois donner et ne pas attendre, avoir une attente trop haute de la part des hommes, sinon tu seras déçu, c'est normal. Soit dit en passant, tu dois créer d'excellentes relations et d'avoir de très bons amis avec lesquels le courant passe. Ça, c'est important. Parce que dire non, il ne faut jamais compter sur les hommes, blablabla, bla, 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 ça, c'est du gros baratin. Nous prions Dieu, nous avons une relation avec Dieu, mais nous interagissons entre nous. Alors on a vu aussi des gens sont parfois se refroidissent très sérieusement quand ils se font escroquer entre guillemets au nom du Seigneur. On a vu aussi qu'il y a parfois des tragédies aussi qui se produisent. Une tragédie, une perte d'un être cher. Et alors, souvent, quand on n'est pas éduqué dans la parole, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Parce qu'on croit que c'est Dieu qui a enlevé le mari, la femme, les enfants, etc. C'est n'importe quoi. T'es bien, ta voiture, tout ça, et en fait tu accuses Dieu indirectement comme Job a accusé Dieu indirectement. Et le diable sait très bien se servir de ce genre de choses, des tragédies pour refroidir des chrétiens. On a vu la deuxième grande chose aussi, c'est les futilités. Petit à petit, on commence à avoir les soucis de la vie. On commence à ne pas gérer son temps. Je suis occupé, j'ai plus le temps de prier, j'ai plus le temps de méditer la parole, je n'ai plus le temps de venir à l'église, je n'ai plus le temps. Parce que tu es la personne la plus occupée de la terre. Je rigole tellement quand je vois des célibataires qui me disent « Pasteur, je suis tellement occupé, je n'ai pas 5 minutes à moi. » Mais comment tu vas faire si tu es célibataire que tu n'as pas 5 minutes? Le jour où tu vas être marié, tu n'auras même pas 5 minutes? Et alors quand tu auras des enfants, tu auras encore moins que 5 minutes. Vous voyez, donc c'est pas juste de raisonner comme ça. Ça c'est quelque chose de charnel. Et la chair, tu ne peux pas la chasser. Tu dois la dominer. Tu dois dire non. Ma priorité doit rester le Seigneur. Et ça, c'est une décision que tu dois prendre. Alors, nous avons vu aussi qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent nous endormir spirituellement. Les discours vains. Les trucs soi-disant super spirituels qui n'ont rien de spirituel. Des doctrines bidons. Qui amène les gens, ni plus ni moins, à s'égarer spirituellement. Et croyez-moi, Satan sait très bien infiltrer ça dans les églises. Vous savez, le rôle de l'église est de vous éduquer dans le Seigneur, dans la parole de Dieu. Le rôle de l'église aussi est de vous protéger. Quand il y a des loups qui rôdent, quand il y a des fausses doctrines qui viennent, le rôle de l'église locale, c'est de protéger les brebis. C'est pour ça que Dieu a donné cette image du pasteur et des brebis. Et le rôle aussi de l'église locale, c'est la correction pour faire du bien au caractère. Et c'est pour cela que vous devez comprendre le rôle de l'église locale. Alors nous en sommes dans la partie où il faut apprendre aussi à garder ce feu. Comment faire pour garder ce feu? La première chose que tu dois comprendre, c'est que garder le feu et entretenir le feu pour le Seigneur, c'est purement de ta responsabilité. Au début, tu te feras nourrir. Quand tu reçois le Seigneur, c'est les autres qui vont te nourrir. C'est pour ça que tu dois être dans une bonne atmosphère spirituelle. Ou finalement, tu dois avoir des personnes qui connaissent le Seigneur. Et faites attention avec qui vous vous entourez. On va en parler justement là aujourd'hui. Parce que ton entourage spirituel est très important. Si tu veux grandir et rester sur la piste, tu as besoin de bonnes personnes autour de toi. Et je te montrerai des critères pour repérer les personnes avec lesquelles tu ne dois pas avoir des relations trop proches. La responsabilité de rester sur la voie droite, c'est la tienne. C'est un combat. Ce n'est pas les autres qui ont la responsabilité de te garder sur la voie droite. Tu as une responsabilité de pouvoir rester vraiment dans le Seigneur et fervent pour le Seigneur. C'est ton choix d'être bouillant pour le Seigneur ou de devenir complètement froid. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont froids.
Et
il
ne
faut pas qu'il en soit ainsi, frères et sœurs. Il faut qu'il y ait cette ferveur, cette fraîcheur de la présence de Dieu. De la parole de Dieu. Des expériences régulières avec Dieu. C'est quelque chose que tu dois toi-même vivre. Si tu ne le vis pas, tu vas te refroidir complètement. Alors dans Jean chapitre 15, au verset 7, Jésus nous donne la façon de se garder nous-mêmes et nous montre la fondation de la parole de Dieu. Il dit bien, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous serez accordé. Mon Père est glorifié en ceci, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez ainsi mes disciples.
Les
paroles de Christ qui demeurent en nous, c'est la pensée de Christ qui demeure en toi. C'est bien sûr la foi aussi qui est générée en toi. Jésus ici parle de porter des fruits. Un arbre qui est aux trois quarts mort ou qui est 90% mort ne porte pas de fruits. Il survit. On a tous vu des arbres, vous avez toute une partie où les feuilles sont sèches. Et puis vous avez juste une petite branche où il y a encore des feuilles vertes. Et vous regardez cet arbre, vous dites celui-ci il est quasiment mort. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Ils ont quelques petites feuilles vertes sur une petite branche qui reste. Pourquoi? Parce que la vie de Dieu n'est pas régulièrement infusé en eux. Cette vie ne coule pas. Donc ils ne portent pas beaucoup de fruits, si ce n'est aucun fruit maintenant. Regarde des années auparavant. Quel type de fruits tu portais? Et regarde aujourd'hui. Est-ce que tu portes plus de fruits? Est-ce que tu es davantage zélé pour le Seigneur? Ou est-ce que c'est le contraire? Est-ce que tu portes moins de fruits qu'il y a quelques années? Est-ce que tu es moins zélé pour le Seigneur? Si c'est le cas, il faut que tu te corriges.
Et
très rapidement. Ça veut dire que tu as d'abord un problème vis-à-vis de la parole. Peut-être que tu dis, moi je connais la parole, moi je connais la parole. Je ne suis pas intéressé par ce que tu connais, combien de versets bibliques, combien de doctrines tu connais. Je suis intéressé par savoir qu'est-ce que tu pratiques et comment la vie de Dieu coule en toi. La parole seule ne te fera pas porter de fruits. La connaissance seulement. La connaissance est indispensable. Mais la connaissance qui n'est pas mise en pratique n'a aucune puissance. C'est juste des jolis discours. Il y a des beaux discoureurs, j'en connais un certain nombre. Je connais des gens qui connaissent très très bien les doctrines de la foi, de la prière, dirigées par le Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit, identification. Ils ont fait l'Institut biblique. Mais aujourd'hui, c'est des gens comme des arbres morts. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont toute une bonne connaissance de la parole. Mais ils
ne
la pratiquent pas.
Oh,
ils parlent, ils soi-disant prêchent.
Ça,
pour parler, ils parlent. Pour se mettre les titres de serviteurs de Dieu, ils se mettent ça sur le dos. Sauf que quand tu les regardes,
il
n'y a pas de fruits. Il y a des jolis discours qui sont même bien bibliques.
Mais
il n'y a pas la vie de Dieu.
Pourquoi ?
Parce que la parole ne demeure pas en eux, ils ne pratiquent pas cette parole. Ce qui donne de la puissance à la parole de Dieu. Ce qui amène la vie de Dieu dans ta vie. C'est quand tu commences à mettre en pratique cette parole que tu connais. Parce que tu marches dans la foi à ce moment-là. Et quand tu marches dans la foi, obligatoirement, tu actives la puissance de Dieu dans ta vie. Et quand tu actives la puissance de Dieu dans ta vie, obligatoirement, il y a des fruits. C'est comme la sève qui coule dans un arbre. Obligatoirement, il y a du fruit. Donc regarde ta position par rapport à la parole de Dieu. Regarde qu'est-ce que tu fais avec la parole de Dieu. Toute la connaissance que tu as. Colossiens 3:16 nous en parle. Et là encore nous montre la responsabilité, notre responsabilité. Un feu, ça s'entretient. Un feu, tu ne vas pas mettre un petit morceau de bois toutes les semaines et dire bah, mon feu va continuer. Si tu mets un morceau de bois par semaine dans ton feu, bon courage. Parce que ton feu sera mort rapidement. Si ça, un morceau de bois arrive à durer même une journée, tu auras de la chance. Et il y a beaucoup de chrétiens qui n'alimentent pas leur feu à cause de ça. Que la parole de Christ habite en vous abondamment. Pas un petit peu. Pas juste quand on a envie de venir avec la Bible. Vous savez, il y a plein de chrétiens ici qui se baladent avec leur Bible et ils l'amènent juste le dimanche à l'église. C'est tout ce qu'ils font. Le pasteur a dit 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Chronomètre, montre.
Le pasteur a dit que nous sommes en train de ingoma.
Ça, il faut que tu traduises en kirundi parce que c'est un jeu de mots français. Mais vous voyez, très souvent, les gens ne savent même pas, ils savent même pas ce qu'il y a dans la parole de Dieu. Non, Paul disait aux Colossiens, les Colossiens, quand vous étudiez les Épîtres, l'église de Colosse, c'est numéro 2 en profondeur de doctrine. Si vous classez les Épîtres par profondeur doctrinale,
Donc supposé
par maturité spirituelle.
Éphésiens
vient en premier. Colossiens vient en deuxième. Que la parole de Christ habite en vous abondamment. En vous, c'est dans votre esprit. C'est-à-dire qu'elle crée, elle crée la foi et que vous la pratiquez. Regardez bien, il est dit instruisez-vous les uns les autres, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Ça, c'est la responsabilité de qui? Est-ce que vous voyez Dieu ici? Priez Dieu pour qu'il vous instruise. Priez Dieu pour que il vous instruise, il vous exhorte. Non, c'est exhortez-vous. Exhortez-vous, c'est votre part. Quand vous lisez dans les textes du Nouveau Testament un impératif, un ordre, ça veut dire que c'est notre responsabilité. C'est la responsabilité de l'homme. Instruisez-vous. Instruisez-vous dans la parole. Exhortez-vous. L'exhortation, c'est pour motiver les gens. C'est aussi quand on commence à s'écarter un peu du droit chemin, dire attention, là tu t'écartes un peu, reviens sur le droit chemin. C'est ça l'exhortation. Donc nous devons régulièrement, c'est quelque chose, Paul nous donne cet ordre de faire ça régulièrement. Nourris-toi de la parole régulièrement. Instruis-toi régulièrement. Exhortons-nous les uns les autres régulièrement. Plutôt que de faire bla bla bla. Bla 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 bla. Tu sais ma sœur, bla 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 bla. Et l'autre sœur dit, oh je suis content, moi aussi j'ai dit bla 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 à faire avec toi. Non, il y a des choses dont on doit parler de la vie, c'est normal. Mais quelle est la part que tu réserves à ton temps vraiment spirituel avec tes frères et sœurs? Plutôt que d'aller raconter tous les ragots du coin. De radio trottoir plus FM. Exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse.
Oui,
heureusement, Paul dit ça, en toute sagesse. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce texte, mais je n'ai pas trop le temps ici. Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Donc pour entretenir ton feu, ça va être temps dans la parole. Et la deuxième chose, ça s'appelle le culte personnel. C'est-à-dire des temps que tu mets à part pour Dieu, seul à seul.
Vous savez,
il y a des gens dans certaines églises, ils voudraient que l'église soit ouverte 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, parce que quand on prie, il faut être à l'église. Non, il y a des temps où on peut être ensemble. Et c'est normal, c'est des temps de consécration. Des temps où on est ensemble. Mais tu dois aussi développer ta vie personnelle avec le Seigneur. Dans cette vie personnelle que tu vas développer avec Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Tu dois mettre du temps à part. Si tu veux entretenir ton feu, il va falloir que tu passes du temps avec le Seigneur. Ton culte personnel. De louer, adorer Dieu.
Toi
avec lui. Seul à seul. Et dans une croissance, parce que là aussi, quand tu joues les grands fanatiques, tu vas entendre tout et n'importe quoi qui ne sera pas de Dieu. Moi, des fois, j'entends des chrétiens dire « J'ai passé toute la nuit en prière. » J'ai fait des jeûnes ici, j'ai fait des prières depuis 3 jours. Et quand je les regarde, je me dis « Mon vieux, c'est vraiment pas de ça dont tu as besoin. »
Tu as
besoin simplement d'une chose, de te repentir de tes mauvaises habitudes et de tes mauvaises penser sur la façon dont Dieu fonctionne. Une relation, ça se développe. Et ça met du temps. C'est jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année,
que
petit à petit ta révélation de Dieu va grandir. Donc le temps que tu vas mettre à part pour Dieu,
n'essaye
pas de jouer comme certaines personnes et qui malheureusement certains d'entre eux ont complètement dévié par du fanatisme bizarre, à vouloir jouer les trop spirituels, et après il
n'y
a plus moyen de reprendre ces personnes-là parce qu'elles sont incapables, parce que le Seigneur m'a dit, moi j'ai passé toute la nuit pasteur en prière et Dieu m'a dit ceci et Dieu m'a dit cela, et ils vous en écrivent 3 livres.
Ugasanga yararenze urugero kubera ntakicumviriza n'impanuro ntakubera yibaza ko asenga cyane ngo amara majora asenga ibintu mwe n'ivyo.
Ça marche pas comme ça.
Suko bigenda.
Tu développes au fur et à mesure ta relation avec Dieu.
Urateza imbere imigenderanire yawe n'Imana buke buke.
Et un peu de sagesse.
Je ne
sais pas ce qui prend à des gens. Des fois, c'est bizarre. Il y a des gens, vraiment, ils se donnent au Seigneur, ils naissent de nouveau. Et au bout de quelques années, ils sont devenus complètement bizarres. Vous savez qu'on est supposé refléter le caractère de Dieu. Et Dieu n'est pas bizarre. Quand un chrétien est bizarre, ça veut dire pour moi, il n'est pas en relation forte avec Dieu, par contre, il est peut-être en relation avec quelqu'un d'autre. Si Dieu te rend insensé, bizarre dans tous les sens, pour moi, tu as un problème sérieux. Parce que Dieu est un Dieu supra-intelligent et un Dieu rempli de sagesse.
Et
Jésus n'était pas, comme d'ailleurs beaucoup de films le représentent, quelqu'un qui était... Non, Jésus était quelqu'un de plus que normal.
Il
y a des films qui ont été tournés et qui soi-disant racontent l'histoire de Jésus. Excusez-moi, mais ils l'ont représenté comme si c'était quelqu'un de fou, et des yeux comme si c'était quelqu'un avec un visage bizarre.
Hari amafilme amwe yerekana Yesu kamenga Yesu sinzi iyo bamukuye.
Avec des yeux. Une fois j'ai vu un film comme ça, mais j'ai dit, mais j'étais choqué. Comme si c'était quelqu'un d'illuminé, vous savez, quelqu'un de super bizarre. Non, pas du tout. L'onction et la puissance de Dieu ne te rendent pas bizarre. Au contraire, ils te rendent ultra intelligent. Ils te rendent rempli de sagesse. L'onction et la puissance et la sagesse de Dieu font de toi quelqu'un qui résout les problèmes humains. Un jour, j'avais comme ça quelqu'un.
J'étais
dans mon bureau. Un ultra, ultra, supra spirituel.
Ah,
ceux-là, je les aime bien. Je m'en occupe personnellement. Et alors, il essayait de me convaincre que le Saint-Esprit, il était en train de lui dire des choses alors qu'on était en entretien. Et alors, ce jeune homme, et il était là, en face de moi. Et j'étais en train de lui parler en lui disant, tu sais, ce que tu vis là, c'est pas du tout de Dieu. Et alors, il me regardait. Oh, le Saint-Esprit est en train de me dire, oh, j'ai mal à l'intérieur. Le Saint-Esprit me fait mal à l'intérieur. Je l'ai regardé. J'ai dit, toi, on va s'occuper de ton cas. Et il continuait comme ça. Et alors je me suis fâché, je lui ai dit, ça suffit maintenant. Arrête tes histoires. ça ne vient pas de Dieu. Et je lui dis, si tu continues comme ça, tu vas devenir à moitié fou.
Et
effectivement, au bout d'un moment, il est devenu à moitié fou.
Et
un jour, il est venu, il est venu à la réception de, à l'époque où on était chez Wege. Et je suis passé, tranquillement, j'étais passé d'un bureau à l'autre. D'un seul coup, il se lève. D'abord, je lui dis, ah, tu es là? Parce qu'il s'était écarté complètement de l'église.
Il
me regarde. Et je savais qui était venu habiter en lui. Et des esprits sataniques se sont manifestés à ce moment-là. Bon, j'ai été clair. Et il a été délivré ce jour-là. Ces esprits sataniques se sont directement manifestés. J'ai dit, vous là, vous allez être foutu dehors dans 5 minutes. Et ça n'a pas tardé. Mais d'abord, j'ai dit à ce jeune homme, repens-toi de toutes ces histoires dont on avait parlé il y a quelque temps. Et vraiment, il s'est humilié ce jour-là. Et il a vraiment compris que c'était des esprits sataniques avec lesquels il fonctionnait. Quand c'est comme ça, la délivrance ne dure pas plus de 3 minutes et 2 secondes. Parce qu'on n'est pas en train de se bagarrer contre les démons, on a toute autorité, on n'a pas besoin de se fatiguer. Mais il y a des gens, vous voyez, qui peuvent être soi-disant super enflammés pour Dieu, qui ne sont pas du tout enflammés pour Dieu. Qui ne sont que des fanatiques bizarres. C'est pourquoi, frères et sœurs, il faut apprendre à rester sur la piste. Dévier est beaucoup plus facile qu'on peut le penser quand on n'obéit pas. Seigneur. Tu dois apprendre et tu dois rester soumis à la parole de Dieu. Et tu dois passer du temps avec Dieu, un temps que tu es capable de passer. Personnellement, dans tous mes cultes personnels, je passe beaucoup de temps à prier en langue. C'est quelque chose qui vous aidera beaucoup dans vos cultes personnels. Et si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, allez au cours de fondation et vous serez baptisé du Saint-Esprit. On va vous forcer. Non, je veux dire, vous allez être baptisé du Saint-Esprit. La puissance de Dieu va vous tomber dessus. Et sinon, quand on a des occasions de prier, recevez le baptême de l'Esprit. Mais la prière en langue, c'est ce qui va vraiment vous aider. On a eu récemment des témoignages à l'Institut biblique de gens de différentes églises. Il y a plusieurs vraiment qui ont témoigné combien la prière en langue a débloqué des choses dans leur vie spirituelle. Très important, parce que ça active votre esprit. Dans 1 Corinthiens 14:14, la parole de Dieu nous en parle. C'est très important. Il y a des temps où tu loues, tu adores Dieu. Et il y a des moments où tu pries en langue. Au travers de la prière en langue, tu vas trouver beaucoup d'inspiration. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Donc tu peux conserver ce feu et alimenter ce feu dans ta vie au travers aussi de la prière en langue. Parce que quand tu pries en langue, que tu as été baptisé d'esprit, que tu pries en langue, la parole de Dieu nous dit au début du chapitre, 1 Corinthiens 14:1, nous dit que nous parlons des mystères, nous parlons à Dieu directement. Il y a beaucoup de bénéfices sur cette prière en langue. Verset 2, il est dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne le comprend, c'est en esprit qu'il dit des mystères, littéralement qu'il proclame des mystères sur lui-même. Bien sûr, des mystères, c'est des choses, des connaissances divines, bien sûr. Tu pries la volonté parfaite de Dieu sur ta vie. Et aussi, Dieu t'inspire. Souvent, quand on prie en langue, et que on se laisse remplir de l'esprit. Quand après tu vas prier pour des cas particuliers. Et même des fois, tu commences à ressentir que tu dois prier pour telle ou telle personne.
Et
c'est important. Et c'est là où tu apprends à obéir, parce qu'à l'intérieur de ton esprit, le Saint-Esprit met des choses. Et tu pries plus comme beaucoup de gens prient malheureusement, mais je sais qu'à El Shaddai, vous ne faites pas ça. Seigneur béni, 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 bénis-moi, bénis-le, bénis-les, 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 bénis-leur, bénis-l'elle, bénis-elle, bénis-elle.
Ya masenge jo kuvuga mana hezagira naka hezagira ibi hezagira turiya na biriya na kwa kundi na byabindi na hahandi ivyo byose byo guhezagira gusa.
Il y a des jeunes garçons qui prient beaucoup, Seigneur bénis-elle. On dit bénis-la, mais eux ils prient bénis-elle. Et ça, c'est des prières qui ne valent rien.
C'est
pas ça qui va rendre de toi qui va faire de toi un fervent chrétien. C'est la prière efficace qui perce le ciel. La prière où tu sens vraiment l'inspiration de Dieu. Où tu es là dans certains domaines où tu dis comment je peux prier pour cette personne. Parce que tu as, cœur, tu as le cœur de compassion pour cette personne. Et tu es là, tu passes du temps et tu es fervent d'esprit et Dieu voit un canal par lequel il peut passer. Et c'est justement là où Dieu commence à t'utiliser. Et plus tu es utilisé par Dieu, plus le feu est alimenté. Rappelez-vous dans Romains chapitre 12. Quand il est dit, soyez fervent d'esprit, c'est une troisième clé importante. Il est dit, servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Si tu ne veux pas te refroidir, sers le Seigneur. Et ici, tu as plein d'opportunités dans cette église de servir Dieu au travers de l'église. Et j'insiste beaucoup pour que les chrétiens s'impliquent dans le service de l'église. Pourquoi ? Parce que vous avez un cadre. Et malheureusement, je suis arrivé à la conclusion depuis quelques temps que quand les gens commencent à vouloir faire leur truc, leur machin en dehors des églises locales,
et
bien un bon nombre de fois ça tourne à la catastrophe. Et je le décourage de plus en plus, je suis désolé de le dire. Pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait servir Dieu en dehors de l'église locale, alors que dans l'église locale il y a des départements qui sont encadrés où vous pouvez servir le Seigneur? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne veut pas en fait être sous une autorité quelque part quand on veut faire des choses. Parce que le Seigneur m'a dit. Beaucoup de gens, j'ai vu beaucoup de gens dévier se refroidir à cause de ça. Des gens qui courent partout dans tout un tas d'activités dites spirituelles. Alors qu'ils ont des opportunités de servir Dieu dans l'église. Et quelques années plus tard, ils sont dans des trucs inimaginables. Tu veux te refroidir? Eh bien, vas-y. Tu seras froid. Tu seras froid. Parce que quand tu fais quelque chose au sein d'une église locale, tu bénéficies de l'onction pastorale. Et je vous assure, moi j'étais très ouvert en disant aux gens, ouais, fais ceci, fais cela, si le Seigneur t'a parlé, etc.
Bah,
quand je vois des années plus tard les fruits que ça a apportés, je me suis aperçu qu'il y avait une tragique erreur de ma part. Parce que finalement, Dieu travaille avec l'autorité spirituelle. Et malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas cette révélation. Alors au début, ça paraît très bien. Sauf que quelques années plus tard, on voit des gens complètement égarés qu'on n'est plus, même plus capable de reprendre parce qu'ils n'écoutent plus rien. Tu veux faire un groupe de prière?
Fais-le
au sein de l'église locale. Tu veux faire l'évangélisation, fais l'évangélisation dans le département d'évangélisation. Tu veux faire la louange, viens faire la louange dans le département louange. Tu veux t'occuper des enfants, des orphelins, etc. Nous avons tous les départements qu'il faut. Nous avons les départements des enfants. Nous avons le département social. Il y a des arts à développer. Eh bien, développons les arts au sein de l'église locale. Tu veux aider les gens, aider intelligemment au travers de l'église, parce qu'au travers de l'église, on peut savoir exactement comment aider intelligemment les gens. Beaucoup de gens se sont refroidis parce qu'ils se sont fait escroquer, parce qu'ils n'ont pas été voir le pasteur. Vous savez, en tant que pasteur, nous savons des choses que vous ne savez pas.
C'est normal.
Nous sommes dans le ministère 24 heures sur 24. Nous rencontrons tout un tas de gens. Et vous n'êtes pas là quand nous rencontrons ces personnes-là. Il y a des personnes qu'on connaît pour être très bien. Il y a des personnes qui sont aidables. Il y a des personnes dont il faut se tenir à l'écart. Et rappelez-vous, l'église locale est une protection. Le feu est entretenu quand on applique les principes divins. Quand les gens ont des mentalités de démocratie dans la théocratie, ça ne marche pas. Je crois qu'un jour, il va falloir que je vous donne le message que j'ai donné au Canada sur ce sujet-là. Parce que je me suis aperçu que finalement, ici même, il y a des besoins importants. Alors maintenant, nous allons parler, comme je vous le disais tout à l'heure, des gens qui causent du trouble. Ça, c'est une autre clé aussi, s'écarter des gens qui causent du trouble. Nous allons lire 2 Thessaloniciens 3:6. Et la parole de Dieu nous avertit de certaines choses. Et je vous assure, certains parmi vous, vous avez vraiment besoin d'apprendre la parole par rapport à cela. Parce qu'il y a des choses, comme je vous le disais précédemment, et comme on vous l'a dit aussi précédemment, le pasteur Isabelle aussi en a parlé, à propos de la culture. Toute nation a sa culture. Les bonnes choses de la culture burundaise qui sont parfaitement en ligne avec la parole de Dieu, nous devons les prendre et les garder. Mais il y a des choses que nous ne devons pas garder parce qu'elles dérogent à la parole de Dieu, elles ne se soumettent pas à la parole de Dieu. Dans toute culture, on pourrait être dans n'importe quel pays, c'est la même chose. Il y a des choses que on peut prendre et des choses qu'on doit laisser. La parole de Dieu nous dit, nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre selon les instructions que vous avez reçues de nous.
Regardez
verset 11. Or, nous apprenons que certains d'entre vous vivent dans le désordre et qu'au lieu d'agir, ils
s'agitent.
Regardons 1 Thessaloniciens 5, verset 14. 1 Thessaloniciens 5, 14. On nous parle de relations. On nous parle d'approbation et de désapprobation. Je vais vous expliquer comment certains chrétiens se refroidissent. Certains chrétiens se refroidissent en approuvant ce que la parole de Dieu désapprouve. Quand la parole de Dieu désapprouve quelque chose et que toi tu es là, tu soutiens cela par ta présence, ça veut dire que tu es d'accord. Amen. Ah là, ça va être dur. Là c'est le côté du serment qui va bloquer dans la bouche, là, ici, dans la gorge. Mais c'est la parole de Dieu, frères et sœurs. Là où tu es présent dans un événement, c'est que tu approuves. Quand tu es présent par rapport à quelque chose où tu sais que la personne est dans le désordre par rapport à Dieu,
je ne
parle pas d'un boulot, je ne parle pas de choses où tu dois être soumis à des responsables, bien sûr. Je parle des choses où tu es libre d'aller ou ne pas aller. Ça,
il
faut être clair là-dessus. Par exemple, certains vous êtes invités dans des mariages
où
l'un est sauvé et l'autre ne l'aime pas. Si tu viens, aïe, j'attaque la falaise, la montagne, je dirais, j'attaque le Kilimandjaro ici. Tu es là présent et même des fois, entre guillemets, invité d'honneur. Je suis désolé. Si tu vois un frère ou une sœur qui s'associe avec quelqu'un qui n'est pas sauvé et que tu es là et que tu es aux premières lignes, tu es en train de montrer une approbation. Et la personne va dire, mais il y avait du monde à mon mariage. Ça veut dire les gens approuvent. Il y a des choses que les gens approuvent que Dieu n'approuve pas. Il n'y a pas de amen, là, je comprends pas. Je pense que c'est parce que c'est moi, j'entends pas bien. Ça doit être ça, aujourd'hui, je dois mal entendre. Tu veux te refroidir? Approuve des choses que Dieu n'approuve pas. Tu vas voir comment tu vas te refroidir. Il y a parfois des choses où nous ne devons pas mettre notre nez. Parce que tu sais que ça ne va pas. Et si tu viens avec ta présence, tu appuies. Tu soutiens, comme vous dites ici. Maintenant, c'est à toi de voir. Mais la Bible est claire. Elle nous dit de prendre des distances avec certaines personnes qui vivent dans le désordre. Ça peut être des gens qui vivent dans le désordre doctrinalement parlant. Si le pasteur te dit, écoute, cette personne-là pour l'instant, elle a dévié. Pourquoi est-ce que tu dis, ah, il est en train d'organiser quelque chose, je vais y aller? Tu
ne
te rends vraiment pas compte où tu vas mettre les pieds, toi.
Il
y a des choses où il faut faire attention, frères et
sœurs.
Nous avons tous un capital
temps.
Il y a des choses que tu peux approuver, il y a des choses que tu ne peux pas approuver. Les choses que Dieu n'approuve pas, tu fais ce que la parole de Dieu te montre. Si quelqu'un est dans le désordre parce qu'il est soi-disant super spirituel, Paul prenait l'exemple de gens qui ne voulaient pas travailler, par exemple. Il y a beaucoup de gens comme ça qui veulent jouer les serviteurs de Dieu, mais en fait, ils ne veulent pas travailler. Et parmi les jeunes, bien sûr, ils recrutent. Mais toi, en tant que personne mûre, un grand sage qui vient dans toutes les réceptions avec une belle cravate et un joli costume, par ta présence, tu rehausses l'endroit partout où tu vas. C'est très bien. Tu veux porter l'image du sage, du Umushinagai.
C'est
bien. Mais prends tes responsabilités aussi quand il y a des choses que Dieu n'approuve pas.
Ah,
c'est les dames qui disent amen parce qu'elles savent que les messieurs doivent prendre leur disposition. Mais mon frère, apprends à être quelqu'un de conviction.
ariko nuko uvuga ngo uhitemwe kuba umuntu afise ico yemera
pasteur tu sais alors la famille va dire blam 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 et ben que la famille dise toi tu marches sur les convictions de la famille ou les convictions de la parole de Dieu
ati umujyango mugabo uzobifata nabi uzobivuga none ugendera ku cy'umujyango vuga cyane ku cy'ijambo y'Imana rivuga
c'est la parole qui prédomine c'est la culture c'est les façons de faire ou quoi
hari ge mvuga nti mbega ijambo n'iryo riganje ni migenzi ganje n'umujyango ganje
oui mais on va me dire des choses et ben qu'on te dise des choses toi aussi tu as des choses à dire
oya ngo bazava bambwira ibintu bankarire ega nawe urafise ibyo wababwira.
J'essaie de vous expliquer comment ne pas devenir un frigo spirituel et pour certains d'entre vous, ne pas passer du frigo au congélateur spirituel. Il y a des choses que tu vas approuver qui ne sont pas approuvables. Dans ces cas-là, tu pratiques la politique de la chaise vide. Tu connais ça? Tu brilles pas avec ton costume, tu brilles par ton absence. Parce qu'il y a des choses qu'on ne doit pas approuver. Il y a des choses dans lesquelles on veut t'embarquer ou dans lesquelles tu diras non. Des fois tu diras non avec le sourire et des fois tu diras non.
Il y a des
façons de dire non. Je n'ai vraiment pas le temps. Ça, c'est la façon d'ici. J'ai vraiment pas le temps. Je suis trop occupé. Trouve un autre responsable de ton comité de mariage. Trouve quelqu'un d'autre. Tu sais, vraiment, je suis très, très occupé. Ou alors, tu peux dire non, vraiment, ça ne va pas avec ce que je ressens dans mon cœur.
Ou
tu peux dire non, c'est hors de question.
Vous savez,
il y a parfois des gens qui insistent et il faut savoir leur dire non. Parce que si tu ne le fais pas, au fil des années, tu vas vivre dans une espèce d'atmosphère bizarroïde.
Maintenant,
vous savez, je vais vous dire une chose. On paye toujours pour ses convictions. Quand tu as des convictions, il y a des gens qui diront, oui, celui-ci ou celle-là, il est comme ci ou elle est comme ça. Désolé, tu dois te tenir sur les convictions de la parole. Tu
ne
veux pas le faire. Tu vas te retrouver dans des situations qui vont t'amener à te refroidir de plus en plus. Parce que par exemple, quelque chose que tu désapprouves, mais tu n'oses pas manifester ta désapprobation,
et
comme par hasard, on t'appelle pour faire la prière de bénédiction. Seigneur, tu sais qu'aujourd'hui j'ai la grippe. Donc je ne pourrais pas te prier très longtemps. Dans cette désapprobation, Seigneur, bénis-les ce jour merveilleux, horrible. Tu te feras piéger par ton manque de conviction. Ça coûte cher de marcher dans les convictions. Mais ça paiera sur ta ferveur. Ça va payer pour ta ferveur. Tu veux rester fervent d'esprit. Tu as intérêt à avoir des convictions. Et tes convictions seront... Vous savez, c'est comme l'histoire d'Abraham.
Ce
n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est quand j'ai regardé ce cours sur survol de l'Ancien Testament qu'on passe à l'Institut biblique. Et le frère qui enseigne là-dessus expliquait que, par exemple, dans Abraham, souvent, par rapport à l'obéissance à Dieu, il s'est retrouvé confronté à la culture de l'époque. Par exemple, Sarah a conseillé à Abraham que Abraham lui fasse un enfant au travers d'Agar. Mesdames, aujourd'hui, tu dirais à ton mari, si tu n'as pas d'enfant, allez, va vers la bonne et fais-moi en deux ou trois. Ça sera nos enfants. Tu dirais ça? Bien sûr que non. Bien sûr que non, mais à l'époque, c'était la coutume. Ta femme ne pouvait pas avoir d'enfant.
Bah,
on allait voir la servante. Et madame fermait la chambre, elle attendait que ça se passe, et puis elle attendait que le bébé naisse et disait, voilà, nous avons un enfant. C'était la coutume, c'est pour ça qu'Abraham n'a pas dit, mais Sarah, t'es complètement folle. Et il est tombé dans le piège avec ça.
Vous
voyez, il y a plein de choses qui se sont passées comme ça. Et souvent, les coutumes nous poussent, je dirais, à ronger nos convictions. Par exemple, en France, on a la coutume de dire ce que l'on pense. Et quand on n'est pas d'accord avec le pasteur, on dit ce qu'on pense au pasteur. Il y a des gens qui engueulent le pasteur en France. Oui, pasteur, moi je ne suis pas d'accord là. Tu devais mettre un tel et un tel pour jouer de la guitare aujourd'hui.
Ati pasteur, il y a des gens qui sont
des fois, il y a des gens qui parlent comme ça. C'est choquant, n'est-ce pas? Très choquant. Mais la coutume, c'est de dire ce que l'on pense. Tout le monde peut dire ce qu'il a envie de dire.
Sauf
que dans l'église de Dieu, ça ne marche pas comme ça.
Vous
voyez, il faut comprendre. Il y a plein de gens qui passent à côté de leur destinée divine parce qu'ils se refroidissent.
Et
ils se refroidissent parce qu'ils ne fonctionnent pas sur les convictions de la parole. Mais ils fonctionnent parce qu'il y a des influences. De mauvaises influences culturelles. N'approuve pas ce qui n'est pas approuvable. Si tu vois quelqu'un qui est dans le désordre et qui veut rester dans le désordre, tu lui dis, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce qu'il y a certaines personnes, vous savez, parfois qui visitent des chrétiens. Et là aussi, je tiens à faire une petite parenthèse pour clôturer. J'ai eu encore le cas récemment de quelqu'un qui m'a dit ça. Oui, il y a une personne qui est venue chez moi à la maison. Il m'a parlé de ça et de ça. Et depuis ce temps-là, je suis troublé. Quand tu as un chrétien troubleur dans le coin, tu le laisses à la porte de la maison, à l'extérieur, aux deux portails. Dieu n'est pas le Dieu du trouble. Quand les gens viennent chez toi et qu'ils commencent à jeter du trouble, écarte-les de ta maison. Prends des distances relationnelles, gentiment si c'est des relations un peu proches. Mais il y a des troubles faits, il y a des troubleurs de paix. Ces gens-là, quels qu'ils soient, tu dois les mettre à une certaine distance de ta vie. Tu ne dois pas les subir. Fais attention aux gens qui viennent et qui mettent du trouble dans ta vie. Ces gens-là, il
ne
faut pas qu'ils viennent et qu'ils reviennent et qu'ils reviennent. Tu vas risquer de te refroidir. Il y a certaines personnes des fois qui donnent certaines paroles à certains chrétiens qui amènent ces chrétiens-là à dévier complètement des voies du Seigneur. Et je l'ai vu plus d'une fois, frères et sœurs. C'est pour ça que je vous dis, si vous voulez être fervent, ayez des bonnes relations. Cherchez des bonnes personnes autour de vous. Priez avec des bonnes personnes. Ayez des relations fraternelles avec des bonnes personnes. Regardez ce qu'ils font et si c'est des bons trucs, ils avancent avec le Seigneur, soyez avec eux.
Mais
mettez une distance, écartez-vous, c'est ce que la parole de Dieu nous dit, des gens qui vivent dans le désordre. Tu dois apprendre à faire ça. Tu les avertis, comme nous avons vu le texte tout à l'heure. S'ils sont là et qu'ils viennent te troubler, tu leur dis, il y a un problème de désordre là dans ta vie, c'est pas chez moi que tu mettras le désordre. Quand il y a une parole que quelqu'un te dit et qu'elle te trouble, elle ne vient pas de Dieu. Dieu est un Dieu de paix. Dieu n'est pas le Dieu de la confusion. Quand quelqu'un te parle et que ça te trouble, tu laisses ça. Directement, ferme-toi à ça. Parce que très souvent, il y a des esprits sataniques qui vont travailler derrière tout ça. Et qui vont commencer à travailler sur ta pensée, qui vont essayer de t'influencer. C'est pour ça que tu dois être ferme. Et que tu dois rester bouillant pour le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche à tous.
Nous
espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté. Et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email msburundi@yahoo.fr. Thank you.